L'actualité francophone avec Radio-Canada, Radio France Internationale, la radio-télévision suisse, la RTBF en Belgique et bien sûr France Inter. Au sommaire cette semaine en Belgique, l'industrie du bois victime de la concurrence chinoise. Le recul de la peine de mort en Afrique salué par Amnesty International. Au Canada, émotion et recueillement après l'accident de la route qui a décimé une équipe de jeunes joueurs de hockey sur glace. En France, l'offensive télévisuelle d'Emmanuel Macron presque un an après son élection à la présidence, et puis la Suisse, elle aussi, confrontée à l'augmentation de la pauvreté. D'abord, les personnalités de la semaine en Afrique, figure de la semaine, Charlotte Hydrac, 8 athlètes camerounais profitent des Jeux du Commonwealth pour s'envoler dans la nature.
Oui, des boxeurs et des haltérophiles qui se sont fait la belle à l'occasion de leur déplacement à Gold Coast en Australie. Après cette annonce, 5 autres sportifs du Rwanda, de l'Ouganda et de la Sierra Leone ont aussi disparu des radars. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Des sportifs camerounais avaient déjà fait défection en Australie, à Melbourne en 2006. Et figurez-vous qu'on les avait retrouvés plus tard courant pour le compte des Australiens.
Au Canada, Benoît Audet, ce sont les joueurs d'une équipe mythique de hockey sur glace qui ont retenu votre attention.
Oui, les joueurs du Canadien de Montréal qui ont conclu une véritable saison de misère. Ils ont terminé dans les bas-fonds du classement de la Ligue nationale de hockey. À Montréal, le hockey, c'est sérieux et les contre-performances de l'équipe ont fait rager les partisans de l'équipe. La direction a promis du changement, mais on ne voit pas le jour où le Canadien remportera un autre championnat. La dernière conquête d'un championnat à Montréal remonte à 25 ans déjà.
En France, l'homme de la semaine, François Hollande, 63 ans, ancien président de la République, 11 mois après son départ de la présidence, il publie « Les leçons du pouvoir », livre bilan de son quinquennat, 400 pages, des réformes assumées, des regrets et aussi des critiques sévères visant son successeur Emmanuel Macron, accusé de creuser les inégalités. Avec des mots soigneusement choisis, François Hollande écrit qu'Emmanuel Macron, son ancien conseiller et ancien ministre, l'a trahi dans l'ombre. Je cite: j'ai toujours admis la compétition politique, mais je pense qu'elle doit se livrer au grand jour et s'assumer franchement. Convenons que ce ne fut pas le cas. La Suisse, Pierre-Henri Chauffat, a trouvé le nouveau patron de ses services de renseignement.
Oui, il s'appelle Jean-Philippe Gaudin. C'est un roman, c'est un militaire aussi. Il est actuellement attaché de défense à Paris. À 55 ans, il avoue que ça lui fait mal de devoir déposer son uniforme, mais il est convaincu de pouvoir encore défendre sa patrie dans cette fonction à la tête des services secrets. Certains politiciens s'étonnent toutefois de ce choix d'un haut gradé par le gouvernement, car c'est d'abord la menace terroriste à laquelle les renseignements doivent faire face aujourd'hui. Mais son réseau tissé quand il dirigeait le renseignement militaire a apparemment fait la différence.
En Belgique, Nathalie De Vic, le monde du cyclisme portait le deuil cette semaine.
Pour rendre hommage à Michael Groulart, décédé dimanche lors du Paris-Roubaix. À 23 ans, le jeune coureur débutait à peine sa carrière. C'était sa première participation à la Reine des Classiques. Il s'est écroulé sur le deuxième secteur pavé, victime d'une crise cardiaque toujours inexpliquée. D'autant que les coureurs sont suivis médicalement avec des tests à l'effort et au moins un examen cardiaque par an. Pourtant, il est le troisième cycliste professionnel belge victime de mort subite depuis 2009. L'un dans son sommeil, l'autre en course également. Ils avaient 22 et 23 ans. Des analyses toxicologiques sont en cours.
La peine de mort recule dans le monde. Amnesty International publie son rapport annuel sur la pratique de la peine capitale. Elle a été moins appliquée en 2017 que l'année précédente. Et l'Afrique, Charlotte Hydrac, compte pour beaucoup dans ce recul.
Oui, sur le continent, premier constat. Selon l'ONG, le nombre d'États où des exécutions ont bien eu lieu en 2017 est en baisse. Ils étaient encore 2, la Somalie et le Soudan du Sud, contre 5 pays en 2016. Motif de satisfaction aussi pour Amnesty, l'abolition de la peine de mort en Guinée l'an dernier. Plusieurs pays ont également progressé vers l'abandon de la peine capitale, comme le souligne Anne Denis, responsable de la commission abolition de la peine de mort chez Amnesty France.
Ce sont aussi des avancées, des petites avancées. Le Tchad, qui conserve la peine de mort uniquement pour des faits de terrorisme. Le Kenya, qui a supprimé le côté obligatoire de la peine de mort pour les meurtres. Et on voit des changements aussi de législatifs Burkina Faso, La Gambie a signé le deuxième protocole facultatif qui interdit en fait un retour à l'exécution et donc qui est un premier pas vers l'abolition.
Des progrès donc, mais le chemin est encore long avant une abolition sur tout le continent. En 2017, il y a eu 6 exécutions capitales de plus en Afrique subsaharienne par rapport à 2016. Et le Nigeria détient encore le triste record du nombre de condamnations avec 621 peines prononcées l'an dernier.
L'actualité en Belgique, Nathalie De Vic, les scieries wallonnes sont en crise, victimes de la concurrence chinoise.
C'est toute la filière bois qui lance un véritable cri d'alarme dans notre pays. Les premières scieries commencent à fermer un peu partout en Wallonie. D'autres voient impuissantes leurs activités ralentir dangereusement. Pourtant, le travail ne manque pas. Le marché, du point de vue de la demande, se porte même très bien. Mais le problème vient du fait qu'il n'y a plus assez de matières premières pour faire tourner notre industrie. Ce sont les Chinois qui raflent tout, comme l'explique cet exploitant forestier grossiste en bois, Michael Somme.
Chez eux, ils n'ont pas cette matière première. Donc, ils sont en train de venir, piller un peu ici. Donc, comme leur main-d'œuvre est beaucoup moins chère, ils arrivent à donner des prix, malgré le transport, malgré les frais supérieurs, ils arrivent à donner des prix exceptionnels. Si les gouvernements ne les empêchent pas de faire ça, vous allez avoir un sérieux problème dans quelques années. On n'aura plus de bois, de toute façon.
Le gouvernement wallon promet des mesures de soutien au secteur pour empêcher la situation de s'aggraver. Mais en attendant, les faits sont là. Les Chinois achète notre bois jusqu'à 25% plus cher que les prix normaux du marché. Difficile à concurrencer. Résultat, entre 60 et 80% de nos forêts, de chênes et de hêtres partent pour l'instant en Asie. Une situation d'autant plus absurde que les Chinois se retrouvent désormais à vendre chez nous des meubles ou du parquet fabriqués chez eux, mais avec du bois de chez nous. Cherchez l'erreur. Question écologie, en tout cas, on repassera.
En France, le président de la République Emmanuel Macron a l'offensive cette semaine face à la contestation qui perdure. Grève dans les chemins de fer, université occupée, violence lors de l'évacuation du bocage nantais qui devait accueillir l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, profession de justice dans la rue, bientôt les fonctionnaires. Interview télévisée jeudi dans le décor inédit d'une école de Normandie. Le président répond aux questions de Jean-Pierre Pernaut, journaliste star chez les retraités et les ruraux. À l'image, en arrière-plan, mise en scène très soignée, on voit des enfants qui jouent dans la cour, au mur de la salle de classe, des dessins pleins de couleurs. Et Emmanuel Macron, sur un ton très pédagogique, d'expliquer qu'il entend les inquiétudes des Français, mais qu'il veut poursuivre avec la même force les réformes. Autrement dit, il ne change rien. Je ne vais pas trop vite, c'est le monde qui va à toute allure. La France doit s'adapter à ce monde en mouvement, dit-il. Le ton est souvent cinglant. La réforme de la SNCF, on ira jusqu'au bout. On le traite de président des riches, réponse.
Les riches, ils n'ont pas besoin d'un président. Ils se débrouillent très bien tout seuls. Moi, je suis président de tous les Français.
Les étudiants qui occupent des amphithéâtres.
Ce ne sont pas des étudiants, mais ce sont des agitateurs professionnels. Et les étudiants, ils doivent comprendre une chose, c'est que s'ils veulent avoir leurs examens en fin d'année, c'est mieux de les réviser. Parce qu'il n'y aura pas d'examen en chocolat dans la République.
Les impôts plus lourds pour les retraités, on leur a demandé un effort fiscal. Là, le ton d'Emmanuel Macron est très poli.
Je leur dis merci et je leur dis surtout une chose, j'ai jamais pris un retraité pour un portefeuille.
Dimanche soir, nouvelle interview d'Emmanuel Macron à la télévision pendant 2 heures. En Suisse, Pierre Chauffat, la pauvreté est en légère progression, mais pour la plupart des ménages qui la subissent, c'est une expérience passagère.
Mais pour la première fois, l'Office fédéral de la statistique a suivi les mêmes personnes sur une période de 4 ans. Enseignement, le nombre de cas est sensiblement plus élevé que le taux de pauvreté de 7,5% en 2016. Cela s'explique par le fait que seule une minorité de 1% de la population a subi cette situation durant toute la période observée. Selon les statisticiens, ce taux correspond aux personnes durablement pauvres, celles qui vivent avec un revenu inférieur à 1900 euros par mois, un chiffre qu'il faut bien sûr mettre en relation avec le coût de la vie en Suisse.
Et donc, Pierre Chauffat, dans la majorité des cas, il s'agit plutôt d'épisodes difficiles, mais de courte durée.
Oui, c'est ce qu'indique cette étude sur la dynamique de la pauvreté. Des situations qui peuvent résulter de maladies, d'accidents, d'un divorce, les familles monoparentales étant les plus touchées. Mais au-delà des statistiques, pour Fabrice Boulet de Caritas Suisse, il faut renforcer tout ce qui favorise l'insertion sur le marché du travail.
Toutes les mesures qui permettent une conciliation plus grande de la vie privée et du travail sont d'une grande aide justement pour les personnes qui élèvent des enfants seuls. Également tout ce qui est formation continue, prise en charge précoce des enfants dès le plus jeune âge, pour faire en sorte que des situations possibles de pauvreté ne se reproduisent pas.
Des mesures efficaces pour réduire les risques de pauvreté à l'heure où l'on observe en Suisse un durcissement des conditions de l'aide sociale.
Au Canada, le pays tout entier a été secoué par une tragédie routière. Une équipe de hockey sur glace décimée dans une collision entre un autobus et un camion remorque. Benoît Audet, le bilan est lourd.
Oui, 16 morts. La majorité étaient de jeunes joueurs de hockey sur glace qui se rendaient à un match dans la province de la Saskatchewan. On ne sait pas encore ce qui est à l'origine de l'accident, mais ce que l'on sait, c'est que la collision a été violente. L'autobus a été pulvérisé sous la force de l'impact. En plus des morts, il y a eu de nombreux blessés dans cette tragédie routière.
En attendant de savoir ce qui s'est passé exactement, Benoît, des voix s'élèvent pour changer les choses.
Oui, l'intersection où s'est produite la collision était bien connue des gens de la région comme étant dangereuse. Un accident avait d'ailleurs fait 6 morts au même endroit il y a plusieurs années. Gilbert Ferré est maire d'une petite localité située près de l'intersection. On l'écoute.
Ce qu'on aimerait voir, je pense que c'est moi qui parle personnellement, c'est qu'il y ait un peu mieux de feux de signalisation ou des feux, des lumières qui nous alerteraient encore plus de bonheur. Surtout des gens qui n'ont pas l'habitude d'être dans ce coin-ci.
En attendant, le deuil se poursuit. Des cérémonies funéraires se tiennent un peu partout, mais la vie reprend tranquillement son cours. La ligue de hockey dans laquelle évoluait l'équipe qui a été décimée a annoncé son intention de terminer la saison comme prévu pour rendre hommage aux disparus.
C'était l'actualité francophone. Retrouvez-nous sur le site lesmediafrancophones.org. À la semaine prochaine.